Philosophe, une série de France Inter pour comprendre, découvrir ces grandes figures, ces révolutionnaires dont les idées, les concepts ont changé la manière de voir et vivre le monde. Friedrich Nietzsche. Né en 1844 à Röcken, mort en 1900 à Weimar en Allemagne, Nietzsche contemporain de Bismarck, Dostoïevski ou encore Wagner, on en parle avec une philosophe, docteur, agrégée, elle est autrice de livres passionnants dont Nos dernières fois récemment parues aux éditions Alary. Bonjour Sophie Galabru.
Bonjour.
Et bienvenue. Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. C'est ce qu'écrit Nietzsche dans l'un de ses livres Ecce Homo. Nietzsche, en quoi est-il révolutionnaire, Sophie Galabru?
Pour moi, c'est un révolutionnaire parce que, d'abord, il va réhabiliter le corps. On va sans doute en parler.
Oui.
Il réhabilite le corps, les pulsions du corps, l'intelligence du corps, contre toute une tradition extrêmement intellectualiste, rationaliste. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça a lieu avant la psychanalyse, en fin de compte. Et puis, c'est un philosophe révolutionnaire, je trouve aussi, parce qu'il est profondément anticonformiste. Et en fait, il critique toutes les formes d'injonction ou de jugement. Et la troisième chose pour moi, c'est qu'il estime que la philosophie n'est pas si supérieure à tout, comme les philosophes le pensent souvent.
Oui.
Pour lui, c'est l'art. C'est un musicien et l'art est supérieur à la philosophie, ce qui est quand même extraordinaire comme affirmation pour quelqu'un qui écrit quand même de la philosophie.
Et on va y venir justement. Il faut, pour comprendre notre société, pour comprendre notre monde, partir donc de concepts vitaux. Parler du corps, c'est toujours sa pensée, une position par rapport à la vie.
Oui, il va quand même dire, notamment dans Fragments posthumes, une phrase slogan, l'étonnant, c'est le corps. Phrase qu'on retrouve dans Par-delà le bien et le mal, hein, ce qui est plus surprenant, c'est bien plutôt le corps. On ne se lasse pas de s'émerveiller à l'idée que le corps humain est devenu possible. Et donc, il va, avec d'autres penseurs comme Spinoza, par exemple, commencer à désacraliser la toute-puissance de la conscience, de l'esprit, de la raison, et va, dans un mouvement complètement opposé, nous dire que finalement, le corps a des talents, des puissances, une forme même d'intelligence, ce qui est complètement, là encore, révolutionnaire.
Oui, le corps et raison, je cite Nietzsche, le corps, une grande raison, une multiplicité qui a un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. C'est ce qu'il écrit dans Ainsi par Zarathoustra, le corps est une raison dont l'esprit est l'outil, l'instrument. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Ça veut dire que le corps a une forme de pensée et d'intelligence dans ses actions. Et c'est en lui, d'ailleurs, dans des processus souterrains, secrets et cachés pour notre conscience, que se fabriquent des volontés, des pensées, qui sont en lutte les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que chacune a une perspective, un intérêt à s'imposer. Et dans cette lutte, l'une va émerger, l'une de ses pensées ou de ses volontés. Et c'est celle-là dont je vais avoir conscience et que je vais peut-être après coup vouloir justifier ou rationaliser. Mais finalement, je suis une multiplicité d'instincts et de pulsions corporelles. C'est ça qui agit, c'est ça qui pense, c'est ça qui veut, avant moi. En tout cas, avant moi en tant que sujet conscient et transparent.
Le moi, c'est quelque chose qu'il fracasse, il détruit, il pratique la philosophie à coups de marteau, pour reprendre une expression très célèbre. Pourquoi est-ce que Nietzsche définit sa pensée comme l'inverse du platonisme, comme un platonisme inversé, comme un anti-Platon, comme si partir du corps, c'était critiquer l'idée qu'il y a au-dessus de nous un ciel où vivent les concepts, où vivent les grandes valeurs, le bien, le mal?
Mais parce que Socrate comme Platon vont quand même affirmer, notamment dans le Phédon, le corps est le tombeau de l'âme. Donc, nous sommes avant tout une âme qui pense, qui réfléchit, qui a pour objectif et pour vertu de penser. En fait, pour Platon et Socrate, nous avons une essence qui est d'être intelligent et nous devons accomplir cette essence comme une mission en réfléchissant et en se tournant vers ces grandes valeurs, ces grandes idées que sont le bien, le vrai et le beau. Nous devons les trouver, les déterminer, les définir, les honorer. Alors que pour Nietzsche, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'abord un esprit ou une conscience, c'est une surestimation humaine, d'une chose qui est assez particulière et que peut-être n'ont pas les animaux, mais la conscience est très surestimée, elle n'est que la partie émergée de l'iceberg, et c'est peut-être elle qui est le tombeau du corps, parce qu'en réalité, ce qui vit, agit et pense, c'est le corps, et peut-être que ces grandes idées ne sont que des intellectualisations, des fabrications, des fictions qui n'existent pas vraiment, ou en tout cas sur lesquelles on ne peut pas avoir de certitude.
C'est très surprenant de lire sous la plume d'un philosophe, Sophie Galabru, ces mots « ta petite raison, elle aussi, mon frère, que tu appelles esprit, est un outil de ton corps, un petit outil ». Un petit jouet de ta grande raison. Cette phrase-là, comment est-ce que il faut l'entendre? C'est comme si on avait passé des siècles et des siècles à ne pas se connaître. C'est comme si l'homme avait vécu dans un rapport de profonde méconnaissance à l'égard de son corps. C'est Nietzsche qui le dit, et qu'il s'était contenté de quelques formules pour s'exprimer sur ses états.
Oui, encore une fois, pour moi, cette intelligence du corps, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire votre corps réalise plein de processus qui vous dépassent, dont vous n'avez pas complètement conscience. Et d'ailleurs, la science actuelle va un peu dans ce sens. Quand on découvre la plasticité cérébrale ou que la microbiote intestinale est un deuxième cerveau, je veux dire, ça accompagne en fait l'intuition de Nietzsche, fabuleuse, qui est de dire votre corps a des processus complexes qui résout des difficultés, qui résout des problèmes, qui réagit à des situations diverses. Et cette réponse intelligence, elle devance votre conscience. Elle n'a pas besoin d'elle. Elle est moins intéressante, elle est même inférieure. Quitte à blesser l'orgueil humain, cette intelligence corporelle, vitale, c'est en fait la réhabilitation d'une intelligence de la vie, du vivant. C'est rappeler que nous sommes d'abord des animaux, tout autant que les autres vivants. Et c'est aussi dire que le corps, ce système de pulsions qui a chacune sa perspective, son regard, finalement, ce corps est plus autonome et il va aussi dire ce dont vous êtes capable. Qu'est-ce que vous êtes capable de supporter dans la vie? Qu'est-ce que vous pouvez endurer? À quoi vous pouvez vous confronter? Pour Nietzsche, le corps répond mieux que nous, en tout cas mieux que la conscience. Et donc, Nietzsche, en effet, dit souvent « ton corps est ta grande raison », c'est-à-dire oui, il est cette intelligence qui répond avant toi, qui résout des problèmes, qui par ses affects et ses pulsions, par exemple, dans cette situation, tu as envie de te mettre en colère, la colère prend le dessus sur plein d'autres affects, la lâcheté, la peur, l'indulgence, eh bien c'est la réponse à donner, c'est conforme à ce qu'il comprend de la situation, à la perspective, à la valeur qu'il a envie de mettre en avant. Et ça ne peut pas se critiquer, nous ne sommes pas complètement responsables de cela. Et en fait, le corps me fait faire des choses et me permet de me découvrir. C'est pourquoi je suis très obscure à moi-même, pour Nietzsche. Contrairement à Descartes qui nous disait, finalement, ma conscience, c'est une transparence à moi-même, ça me permet de mener des introspections, de m'explorer, d'apercevoir ce qui se passe en moi au moment où ça se passe. Nietzsche dit, en fait, complètement l'inverse, dit, vous êtes obscure à vous-même, puisque ce qui vous dirige, c'est cette vitalité et ce corps. Et la conscience, c'est la caisse enregistreuse qui regarde après coup, en fait, ce qu'il se passe. Donc, votre corps, c'est ça, je devrais pas dire identité, mais votre corps, c'est, pour Nietzsche, c'est plutôt le soi corporel, en fait. Et soi corporel, je dis, on a l'impression que c'est quelque chose de bien unifié, bien cohérent, mais même pas. C'est un bazar, c'est un bouillonnement d'instincts, de pulsions qui luttent entre elles et l'une va prendre le dessus dans une situation. Et on ne comprend pas toujours pourquoi.
Autrement dit, le philosophe est autant un psychologue qui étudie l'âme humaine qu'un physiologue, celui qui étudie le corps. Il y a l'une des expressions les plus connues et qui a été interprétée, souvent très mal comprise chez Nietzsche, c'est l'expression de volonté de puissance. Le corps, c'est un jeu de ses passions que Nietzsche appellera des volontés de puissance. Ces mots, ils sont assez obscurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette volonté de puissance et quel rôle ça vient jouer dans le corps?
C'est-à-dire que la puissance, c'est ce que je peux faire dans la vie. Et donc, qu'est-ce que mon corps peut? Ça renvoie à ma puissance. Et ça renvoie au concept de volonté de puissance, qui est pour lui son concept clé d'un point de vue. C'est un naturaliste. Il fait même de l'éthologie, en fait, Nietzsche. C'est-à-dire, il étudie les manières d'être ou les comportements animaux. Oui. Et donc, il dit, nous avons tous les animaux, les êtres vivants ont une volonté de puissance qui veut dire, ils ont une puissance qui veut ceci ou cela. Et ça peut, en quelque part, te définir. Qu'est-ce que je veux en fonction de cette puissance? Peut-être que moi, j'ai pas la puissance, par exemple, j'ai le vertige, j'ai pas la puissance de marcher sur un fil, je suis pas capable d'être funambule. Et puisque je suis pas capable de marcher sur un fil, je veux pas faire ça. Donc il faut pas penser que la volonté de puissance, c'est volonté de dominer.
Ou volonté, oui, d'avoir du pouvoir
d'avoir
sur
de la puissance.
Les autres.
C'est plutôt j'ai des puissances. Et elle me mène à vouloir des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer certaines puissances au cours de sa vie. Peut-être qu'un jour, j'aurai beaucoup moins le vertige et j'aurai très envie de prendre l'avion, de marcher sur un fil. Pour l'instant, je n'ai pas cette puissance, je n'ai pas envie. Donc, je ne vais pas me mettre dans ces dispositions.
Donc, comment est-ce qu'on exerce cette volonté de puissance? Ça peut être à travers l'exemple que vous venez de donner. Elle peut aussi s'exprimer, par exemple, à travers la création artistique.
Oui. Par exemple, la puissance, ça nous mène, enfin, dans sa forme la plus noble, la plus assumée, normalement, ça nous mène à être créateur. Quand on assume sa puissance, bah, on veut, on crée, on affirme, on a envie de, je pourrais dire, de conquérir, mais ça peut porter à confusion.
Oui.
Mais on a envie de se déployer, on a envie de nourrir sa vitalité, cette puissance, et de créer, d'imposer des formes au dehors. Parce que Nietzsche dit, le vivant, c'est ça, c'est quelqu'un qui se nourrit, qui se déploie, qui parfois impose sa forme au dehors qu'il rencontre. Mais c'est pas parce qu'il cherche à dominer, détruire. C'est tout simplement qu'il cherche à se déployer. Mais ça, c'est la forme audacieuse, joyeuse, ivre d'elle-même et plutôt saine. Il y a des formes plus dégénérées de la volonté de puissance qui vont conduire à, par exemple, soit à vouloir plus de puissance et donc à dominer, mais en fait, c'est une volonté assez faible. Celui qui veut dominer l'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire son chemin par lui-même, par une voie complètement affirmative.
Oui.
C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir puissant en écrasant. Donc c'est déjà une volonté de puissance dégénérée ou abîmée ou altérée. Ou il y en a d'autres qui n'osent pas du tout, c'est ce qu'il appelle les faibles ou les esclaves, qui sont terrorisés par cette vitalité, ce bouillonnement d'instinct, de pulsion, contraire, parfois contradictoire, qui ont peur de vivre en fait.
Il va formuler une critique radicale, Nietzsche, du mode de vie qu'on appelle ascétique, qui est pourtant le modèle de ce qu'on imagine être la vie du philosophe ou le mode de vie recommandé par les philosophes. Et lui, il préconise des actions extrêmement concrètes de renforcement physiologique. Ça veut dire qu'il va jusqu'à parler de l'alimentation saine, qu'il va jusqu'à parler du climat. Quand vous disiez que le point de départ, c'était le corps, la corporéité, elle est absolument centrale dans le dispositif pour comprendre son refus de vivre en ascète ou de vivre en prêtre ou en vivre comme un moine.
Oui, la puissance de mon corps et ce que ma puissance veut, moi j'appelle ça, on peut dire volonté de puissance, moi j'appelle ça vitalité pour simplifier. C'est comment nourrir ma vitalité. Donc ça peut passer par l'alimentation, par tout ce qui va donner de l'énergie à mon corps, le nourrir, le contenter, lui faire plaisir, lui donner de l'énergie et lui donner envie de se déployer. Alors, pousser à l'excès, ça peut aussi donner la grande bouffe de Marco Ferreri, hein, c'est-à-dire le grand vivant,
ouais,
qui aime être dans la nourriture, la gourmandise, l'ivresse, la jouissance, la concupiscence. Ça peut aussi parfois s'invertir dans l'overdose, hein, aussi. C'est-à-dire que ce que dit Nietzsche d'intéressant, c'est que le grand vivant, c'est pas forcément quelqu'un qui veut économiser sa vie. Le grand vivant, c'est aussi quelqu'un qui dépense, qui décharge l'énergie, qui parfois gaspille, qui donne généreusement à l'autre, à la situation, et ça peut aller parfois jusqu'à une prise de risque fatale. Je parle de l'overdose, de l'excès, ou une prise de risque qui conduit parfois à l'accident, voire à la mort. C'est pas quelqu'un qui s'économise, le grand vivant. Alors que le faible, il vit dans l'économie d'énergie permanente. Il a,
oui,
peur de trop consommer, de trop donner. Il essaie de trouver un petit équilibre pour essayer d'avoir la vie la plus protégée, la plus sans risque, la plus pérenne, la plus longue. Et ça, Nietzsche a effectivement un certain mépris pour cette attitude.
Et le seul dieu qu'il reconnaît, ou en tout cas auquel il s'identifie, puisqu'à la fin de sa vie, quand il deviendra dément, complètement fou, il écrit des lettres, il n'arrête pas d'écrire, et parfois il signe Dionysos. C'est-à-dire que c'est pour lui le seul dieu qui dit oui. Il y a un oui dionysiaque qui veut être un créateur. Il faut d'abord être destructeur et briser les valeurs. La création, elle est inséparable de cet idéal que formule ou qu'incarne Dionysos.
Oui, c'est vrai qu'il met en parallèle Apollon et Dionysos en disant Apollon, c'est vraiment la puissance de la mise en ordre, de la grande clarté, de la grande transparence, ce qui n'est pas...
C'est la sculpture classique.
Oui.
De la Grèce antique.
Absolument.
La majesté des ruines qui nous restent de cette époque-là.
Et Dionysos, c'est au contraire la destruction, le chaos, l'ébullition, le bouillonnement informe. Mais ces deux puissances, on peut avoir de l'intérêt. Hein. Mais si on est juste dans la clarté, la clarification, la mise en ordre comme une discipline pour contraindre sa volonté et sa puissance, là, ça devient une attitude hostile à la vie. Par contre, si on a besoin de clarification, de mise en ordre, d'élégance, parce qu'on a l'impression là de nourrir cette vitalité, de se déployer, c'est pas une attitude forcément dégénérée ou dévitalisée. Ce qui compte pour Nietzsche, c'est quelles sont les valeurs, les attitudes, les gestes, les paroles qui nourrissent cette vitalité, ce désir de vivre. Et quelles sont les valeurs ou les attitudes qui vont au contraire l'abîmer, l'altérer et contraindre cette volonté de puissance.
À suivre, justement. Pour continuer à tirer le fil de ce que vous disiez, Nietzsche, le critique de la morale.